voix nue. Cette semaine, Johanna Bedeau rencontre Emmanuel Laborie. Ce soir, le cri de la mouette, un cri d'enfant.
Enfant, vos parents vous surnomment la mouette. Comme l'oiseau de mer, vous criez pour vous faire entendre et sortir du silence insupportable dont vous êtes prisonnière. Sourde de naissance, vous allez découvrir un jour que la vie ne s'arrête pas là et qu'il existe une autre langue, celle de la langue des signes. Tout un monde s'ouvre alors à vous. Vous devenez Emmanuel Laborie, un être humain doué de langage. Adolescente révoltée, vous rêvez de devenir comédienne jusqu'au jour où vous êtes révélée au grand public, en 1993, pour recevoir le Molière de la révélation théâtrale, pour votre rôle dans Les Enfants du Silence. Auteur et metteur en scène, vous reprenez en 2003 la direction de l'International Visual Théâtre, lieu ressource de la culture sourde, où vous devenez la plus grande défenseuse de la langue des signes en France. Pour que le monde des sourds, dites-vous, ne soit plus le monde du silence. Bonsoir Emmanuel Laborie.
Bonsoir.
Dans votre livre, Le cri de la mouette, vous commencez par dire que les mots sont une bizarrerie pour vous depuis votre enfance. Vous sentiez très tôt quelque chose de différent lorsque vous regardiez les gens autour de vous ?
Oui. Pour moi, c'était évident. Je voyais des bouches qui bougeaient, les gens se comprenaient apparemment. Je trouvais ça assez incroyable, mais moi, je n'étais pas dans cette capacité-là. Donc, je me sentais totalement en décalage. Tous ces mouvements de lèvres et tout ça, et que je n'arrivais pas à percevoir. Aussi, ce que je voyais, parce que quand j'étais petite, effectivement, j'étais très, très visuelle. Donc, j'avais beaucoup de repères visuels. J'avais des appareils auditifs et les autres n'en avaient pas. Personne n'en avait. Donc, je me disais bien qu'il y avait quelque chose de différent entre eux et moi. Et ça, c'était évident. Alors, c'était un tout petit détail de quelque chose de pas grand-chose, mais que j'avais repéré. Et les mouvements de bouche et tous ces mots que je voyais, que je ne pouvais pas comprendre encore, pour moi, ils n'avaient pas de sens. Ils étaient assez mystérieux. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était quelque chose de totalement abstrait que ces mots. Il y avait quelque chose qui me faisait buter. J'étais comme les autres, mais en même temps, j'étais différente. Donc, c'était un ressenti très bizarre pour moi. Et lorsque j'ai rencontré des adultes sourds, lorsque j'ai découvert la langue des signes, ça a été essentiel pour moi. Ça a été vraiment un très grand bouleversement dans ma vie. Ça m'a donné une grande ouverture.
Alors hier, demain, aujourd'hui, votre cerveau fonctionnait seulement au présent avant d'avoir accès à la langue des signes ?
Oui. Peut-être que pour vous, ça peut sembler bizarre, parce que lorsque vous êtes né, vous étiez dans ce bain de langue, ce bain linguistique, donc dans la parole que vous perceviez. C'est vraiment ce qu'on appelle, nous, un bain linguistique. Mais moi, le mien, il était où ? C'était toujours le moment présent, effectivement. C'était toujours là, aujourd'hui, maintenant. Et lorsque je parlais de moi, je ne disais pas « je ». En fait, je disais « elle ». Comme s'il y avait quelque chose qui me dissociait. Comme si j'étais décuplée. Et cette langue des signes m'a donné les trois dimensions, m'a donné l'espace sans par rapport à mon corps, ma position de mon corps. Donc j'ai compris que dès qu'on allait un peu vers l'arrière, c'était le passé, dès qu'on s'avançait un petit peu, c'était le futur, et quand le corps était droit, c'était le présent. Pour moi, ça a été une révélation, vraiment la lumière, et d'un seul coup, ça m'a semblé mais tellement logique. Et puis la ligne du temps, on peut aussi vraiment la regarder différemment, la voir devant soi, donc vraiment voir l'ordre chronologique, voir le moment de sa naissance, la naissance de ses parents, etc., etc. Donc ça a été beau.
Donc vous êtes née sourde dans une famille d'entendants, et jusqu'à vos 7 ans, vous communiquez comme vous pouvez, vous quoi ? Vous poussez des cris, les sons ne venaient pas ?
Oui. C'est vrai que comme je voyais ces mouvements de bouche, moi je criais. Je criais, je voulais avoir un retour son, mais je ne l'avais pas, jamais. Donc j'avais beau crier, pour moi il y avait quelque chose qui disparaissait, donc quelque chose qui était pour moi inaccessible. Je criais, je savais, je voyais bien que mes cris étaient perçus, étaient entendus. C'est vrai, je dis qu'ils étaient vus, mes cris. Je voyais bien qu'on me voyait crier, mais... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce n'était pas comme pour les autres. Ce n'était pas comme pour les autres enfants. Il y avait quelque chose de particulier. Et voilà, en fait, je suis sourde.
Et alors, c'est comme ça, du coup, qu'ils vous surnomment la mouette ? Parce qu'ils vous entendent crier ?
Oui, oui. Mais dans ma famille, vous savez, c'est une famille de marins, hein, quand même. Hein. Donc, je poussais des cris vraiment très, très forts. Hein. Et on m'a surnommée la mouette, mais c'est vraiment un surnom très, très affectueux. Et j'en rigole maintenant, parce que la mouette, la muette, celle qui ne peut pas s'exprimer, Voilà, donc il y a quand même un petit jeu de mots quand même un peu par derrière. Hein. Donc je trouvais ça très drôle. Hein.
Et alors, qui de votre entourage, Emmanuel Laborie, a perçu que vous criez parce que vous n'entendiez pas? Votre famille ou les médecins?
Non, ce sont mes parents. Vous savez, chaque jour, ils voyaient quelque chose. Des fois, ils se disaient « non, elle est sourde ». Et puis le lendemain, ils disaient « non, non, elle n'est pas sourde ». Et puis le surlendemain, c'est « si, elle est sourde hein. ». Parce que j'avais parfois des réactions. Je pouvais percevoir, par exemple, une porte qui claque. Bon, bah, il y a quand même le souffle du vent. Donc forcément, je me retournais. Parce qu'il y a la vibration également, lors du bruit. Et puis quand la musique était forte, bon, là où je ne le percevais pas du tout, je dormais tranquillement. Donc voilà, mes parents étaient toujours comme ça, entre deux feux. Et c'est un de mes oncles, Philippe, Fifou, musicien, qui un jour, en discutant, s'est dit « non, non, il y a quelque chose, elle est réellement sourde ». Et il y avait vraiment cette hésitation. Et puis, bon, ils ont décidé de m'emmener voir un ORL pour faire un contrôle. Et effectivement, ils se sont rendus compte que j'étais sourde. Mais alors, sourde, bouchée. Voilà.
Et parce que les médecins n'ont pas perçu ça?
Ben non, mais puis c'est pas marqué dessus. Hein. Donc, voilà, j'étais une enfant comme les autres. Hein. Donc, je rigolais, Mais ma mère, déjà, elle avait trouvé quelque chose de bizarre. Puis on lui avait dit « arrête, là tu fantasmes, arrête donc ». Mais c'est mieux que ce soit mes parents qui se soient rendus compte de ma surdité. C'est beaucoup mieux, tout simplement parce que ça a été sur un ressenti de leur part. Hein. Si ça avait été une intervention médicale, je pense que ça aurait été beaucoup plus violent. Mes parents n'auraient pas été prêts, donc ils m'ont accueilli comme enfant. La relation s'est créée entre eux et moi. Et puis ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Donc ils se sont préparés psychologiquement pour apprendre la nouvelle.
Et alors dans votre famille, Emmanuel Laborie, on ne vous prive pas pour autant de musique, bien au contraire, votre père d'abord qui veut vous faire partager sa passion de la musique en vous amenant en concert. La musique, vous la ressentiez dans votre corps? Vous parliez tout à l'heure un peu de vibration, en fait elle s'installe en vous?
C'est comme... comment dirais-je? Je ressens des pulsations. Des pulsations qui viennent de la terre, donc à partir de mes pieds, je ressens cette pulsation. Donc moi j'aime les musiques qui sont assez fortes, notamment avec les percussions, la musique africaine, des musiques, je dirais, rock, qui sont quand même plus physiques, qui vraiment, on ressent les vibrations jusque dans l'abdomen et on les ressent très très fortement. Alors après, de la musique aérienne, des musiques plus aériennes, plus légères et tout ça, là, je ne l'aperçois pas du tout. Je ne peux pas l'attraper parce que là, il n'y a pas du tout de vibration. Alors comment est-ce que je peux le percevoir? Là, c'est assez drôle. Par exemple, mon père jouait du piano, non, un piano à queue, hein, attention. Hein, donc déjà, visuellement, c'est magnifique. Bon, donc visuellement, il y a déjà ça. Et puis, il était dans son émotion, dans son jeu. Donc, quand il était vraiment dans la musique, ça se voyait de par le corps, de sa façon de toucher les touches, etc. Donc, je voyais tous ces détails, l'expression du visage, etc. Donc, j'imaginais cette musique. Donc, je la voyais aérienne, un petit peu comme quand quelqu'un joue du violon. Je ressentais, comment dirais-je, comment je peux vous expliquer ça? Je sentais de l'air, hein. Alors, pas le cuicui des oiseaux, pas du tout. J'imaginais autre chose. J'imaginais pas du tout des oiseaux, du tout. Je voyais comme, je sais pas, des mouvements dans l'air, des suspensions. Mais bon, voilà, ça c'est mon imaginaire. Hein. C'est pour ça que j'adore les concerts. Parce qu'on peut voir chacun des protagonistes dans sa concentration, dans son expression de sa musique, avec son énergie, et on la ressent très très fortement. Alors, je ne sais pas comment les entendants perçoivent la musique, en tous les cas, différemment de moi. Mais c'est ça qui est bien.
Et là, je repense à ce que vous aviez dit un jour sur Maria Callas, que vous avez ressenti devant cette télévision une voix chantée.
Oui. Mais c'est la Callas qui a réussi à me faire pleurer. Quand même, mes parents, ils n'en revenaient pas. Ils étaient vraiment hyper étonnés parce que c'était vraiment une tragédienne, de toute évidence. Ça se voyait. Elle était très théâtrale, hein, même en chantant. On voyait tout sur son visage, dans son regard, dans sa façon de chanter, dans l'énergie qu'elle donnait. Son corps parlait, tout simplement, tout son corps. Elle n'était pas du tout morte, avec un visage neutre et tout ça, pas du tout, du tout. Et moi, j'étais submergée par cette émotion qui a été très, très forte. J'ai le poil qui s'est hérissé. Et... Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir de cette période avant d'avoir accès justement à la langue des signes, une vie pleine de trous?
C'était plus une sorte de chaos. Il n'y avait rien de logique qui se suivait. La nuit où je dors, je me rappelle la lumière des voitures qui passent dans la rue. Donc je voyais d'un seul coup la lumière dans ma chambre et puis qui s'éteignait. Et ça me faisait peur. Hein. Voilà, je me rappelle des choses comme ça. Je me rappelle également... ma vie était un véritable chaos. Et c'est peut-être pour ça que je disais que j'étais hyper maniaque. Je rangeais super bien mes poupées. Elles étaient super bien alignées les unes à côté des autres. Donc bien posées, les bras bien avec sur la couverture, les yeux, les paupières bien refermées. S'il y en a une qui bougeait, je recommençais tout. Mes parents, ils étaient fous de rage. Ils en pouvaient plus. Perdaient patience. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que j'étais comme ça. Et je me suis dit que c'était peut-être parce que j'avais besoin de ranger quelque chose, parce que j'étais vraiment... je bloquais avec l'extérieur, j'avais besoin de m'aider à me structurer, peut-être. J'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin de souffler. Et puis, après, je me suis posé la question, j'ai dit, mais est-ce que tous les enfants font ça? Mais non, après, en bavardant avec d'autres personnes sourdes, lors de nos échanges, j'ai bien vu que les autres, ils étaient différents. Donc je me suis dit, non, tous les sourds ne sont pas comme ça. C'est chacun trouve sa propre solution. Donc chacun est unique.
Alors votre mère avec qui vous inventiez votre propre communication, une communication ombilicale comme vous dites, et celle qui vous comprend le mieux à cette période-là de votre vie?
Oui. C'est vrai que je dis que c'était une communication ombilicale parce que justement, c'est bon, la mère porte l'enfant, il y a ce fameux cordon, et là, mais je pense qu'en fait, elle me ressentait, elle percevait, elle arrivait à savoir si j'avais faim, ce que je souhaitais, et elle arrivait à discuter, même si on nous avait dit qu'il fallait pas de langue des signes, ma mère disait, après tout, mince, c'est quand même ça qui est le plus pratique, c'est ce qui nous permet de communiquer, donc il y a eu un code mis en place, et heureusement... Heureusement, souvent les gens me disent « Ah oui, mais avant 7 ans, bon, donc je ne connaissais pas la langue des signes, on me disait « Mais il n'y a eu aucune communication, d'un seul coup à 7 ans, langue des signes. » Ben non, bien sûr que non. Ben non, si ça avait été comme ça, mais je serais morte. Vous savez très bien que pour un enfant, le langage est absolument essentiel, même s'il passe par les yeux, etc. Cette envie de communiquer est essentielle, donc j'avais tout ça. Donc quand je parle d'un langage ombilical, c'est égoïste. Aussi parce que ce n'était qu'elle et moi. Ils n'avaient pas leur place, les autres, ils étaient totalement exclus de cette communication. C'était très renfermé, en fait.
À cette époque-là, en France, on vous demande quoi, finalement, à l'école maternelle? On vous demande d'apprendre à parler? De vous apprenez les oui. R qui vibrent, les che, les consonnes, les voyelles? Comment la main posée sur le cou de l'orthophoniste?
Oui, oui. En orthophonie, j'avais donc le casque. Bon, maintenant, ça a beaucoup changé, hein, bien sûr, avec la technologie. Mais bon, en tous les cas, de mon époque, je voyais un petit écran. Et quand j'avais le micro, je parlais, je voyais un petit dessin. Donc, je voyais, comment dire, des courbes. Hein. Donc, l'orthophoniste parlait, et correctement, bien sûr. Hein, elle parlait correctement. Et donc, je voyais la courbe que ça devait prendre. Donc, après, ça venait mon tour. Et moi, je parlais, je voyais que la courbe, elle n'avait pas du tout la même forme. Donc, ça n'allait pas. Donc, je cherchais à trouver la même courbe que l'orthophoniste. Donc, avec les mains sur la gorge de l'orthophoniste, avec un papier sur lequel on souffle. Pour le che, on appuie sur les joues pour faire chat. Voilà. Donc, enfin bon, bref, hein, plein de trucs, enfin, ces techniques. Et puis... Comment dirais-je, ça m'a pas fait comprendre. Hein. C'est la langue des signes qui m'a fait comprendre comment fonctionnait le français, comment les mots se disaient. Et ah, mais vraiment, j'en revenais pas. Et après, j'ai réussi à pouvoir parler, à dire des mots. Bon, je parle à peu près. Mais il y en a, par exemple, le S, moi, je ne peux pas le prononcer, le S. Le S, moi, je le remplace par un T. Parce que pour moi, c'est trop difficile de prononcer cette lettre S. Par exemple, quand on dit super, moi, je dis tu perds. Voilà. Saucisson, moi je dis totiton. Voilà. Il y a des sons qui me sont difficiles. Et puis vous savez, j'ai pas le retour son, moi. Hein. C'est pas comme vous, vous pouvez contrôler, vous corriger, régler, tout ce qu'il faut. Moi pas. Comment je contrôle? Visuellement. Uniquement. Donc, c'est comme ça que moi je peux progresser. Mais tout ce qui est sonore, hein, pour moi, ça reste mystérieux. Même là, le fait que ça soit une émission pour la radio, moi je regarde une radio en me disant, mais quel est ce mystère? Parce que pour moi, c'est pas accessible. Oui, j'ai été invitée à plein d'émissions de radio, bien sûr. Et je trouve que c'est important. Je ne le refuse pas. Parce que la radio, c'est aussi une ouverture. C'est ce qui a permis à mes parents d'entendre parler d'IVT. Donc, je me dis que oui, la radio, c'est un outil qui est quand même génial, hein, qui est très bien pour diffuser une information autre que celle de la télévision aussi. Donc, je dis que c'est un média utilisé. Mais c'est une petite boîte bien mystérieuse pour moi.
Et alors, avec votre père, du coup, les difficultés de communication sont plus fréquentes parce que, justement, vous n'aviez pas trouvé, j'imagine, ce langage. Mais jusqu'à ce qu'il entende à la radio, sur France Culture, je crois, une émission consacrée à un homme sourd, Alfredo Corrado, fondateur de l'IVT, théâtre et centre de formation en la langue des signes.
Alors,
vous avez que 7 ans, mais...
Non, là, j'étais trop petite. Mais ce que je sais, c'est que mes parents me l'ont dit. C'est qu'ils ont été un peu sous l'état de choc. Parce que les médecins, les ORL, disaient qu'il faut éviter à tout prix de rencontrer des adultes sourds. Parce que sinon, j'allais avoir des retards mentaux, des retards d'acquisition. Parce que la langue des signes ne permet pas d'apprendre à parler, ne permet pas de s'inclure dans la société. Et on m'avait dit, ne vous inquiétez pas. On leur avait dit, votre fille va grandir avec des appareils auditifs, elle va pouvoir parler, elle va devenir normale, il faut la soigner. Donc mes parents étaient un peu... La confiance au corps médical, ils disaient, bon, ils ont les compétences nécessaires, mais en même temps, ce qu'ils ont entendu à la radio n'allait pas du tout dans le même sens. Heureusement qu'ils n'ont pas écouté les médecins. Heureusement qu'ils ont été désobéissants. Heureusement qu'ils ont fait cette démarche pour aller voir par leurs propres yeux. Parce que s'ils avaient eu peur et qu'ils avaient préféré suivre le discours médical, moi j'étais fichue. Leur désobéissance leur a permis de se rendre compte, mais ils ont été bouche bée. À ce moment-là, à la radio, eh bien, Alfredo parlait de l'IVT qui venait d'ouvrir. Donc, il y avait un interprète, comme se passe là notre discussion aujourd'hui avec un interprète. Alors là, c'était un interprète qui s'appelle Bill Moody. Et Alfredo cherchait à réunir des sourds. Il se demandait où étaient les sourds. Et c'est pour ça qu'il, en fait, il faisait beaucoup de démarches. Il allait dans des entreprises où il savait qu'il y avait plusieurs personnes sourdes qui étaient salariées. Et donc, c'était un appel à la radio en disant, voilà, venez nous voir. Venez tous nous voir, nous sommes ouverts. Ce n'est pas un lieu fermé du tout. Et à ce moment... Ma mère était enceinte de ma sœur. Mon père est allé à IVT avec moi, uniquement. Nous étions tous les deux. Et je me rappelle, c'était ce château. Vous imaginez cette grande tour du château avec cet escalier en colimaçon. Et là, il fallait que je monte avec mon père. Je lui tenais la main et on montait comme ça sans arrêt. Et ça tournait. On pousse une porte et là, Alfredo. Alfredo qui est un très bel homme, hein. Moustachu, très élégant. Un Italien quand même, hein, d'origine. Donc une tchatch. Et il y avait également Jean Grémion qui était présent. Donc qui a beaucoup de charisme aussi. C'est à ce moment-là où Alfredo est venu me voir. Il s'est mis accroupi devant moi, donc à ma hauteur. Puis il me dit, tu es sourde, comme moi? Puis là, je l'ai regardé. J'ai vu qu'il n'avait pas d'appareil auditif. Donc j'ai dit non. Non. Enfin là, je n'avais pas compris. En fait, je ne comprenais pas. Vous savez, moi, mes repères, ce que je vous disais tout à l'heure, je voyais la différence si les gens avaient des appareils ou pas. Or, lui, il était adulte, il n'avait pas d'appareil. Donc, pour moi, c'était quelqu'un d'entendant. Et puis, il m'a parlé, il m'a tout expliqué. Alors, bon, bien sûr, hein, la langue des signes n'est pas venue comme ça, il a fallu du temps. Hein. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui était là. La porte n'était pas encore ouverte, mais la clé était mise sur la serrure. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait une énergie, il y avait une langue, et puis visuellement, il y avait quelque chose qui, d'un seul coup, était perçu par moi, même si je ne le comprenais pas.
C'est peut-être un peu trop fort de dire ça, mais est-ce que vous donnez l'impression, quand vous parlez de ça, là, de découvrir un peu votre propre existence, enfin le... à ce moment-là
je dirais que ce serait plus comme une deuxième naissance. Ce que je vous disais, le langage ombilical était très fermé, alors que là, d'un seul coup, il était rompu, le cordon ombilical. Il y avait une véritable ouverture, une ouverture avec une communication avec d'autres gens, qui n'étaient pas forcément des gens de ma famille, mais des gens extérieurs à ma famille. C'est important, essentiel. Être toujours fermé dans son cocon familial, c'est... Tous les enfants ont besoin de leur famille, bien sûr, c'est un noyau essentiel, mais il y a tout l'extérieur, il y a les autres. Quand je vois ce qui se passe maintenant, avec les enfants sourds, je me dis, mais ça, c'est vraiment des moments essentiels. Et avec Jennifer, le sage David à IVT, on s'est dit, il faut absolument, absolument qu'on s'occupe des familles et des enfants, qu'on les accueille, qu'on leur donne cette ouverture, parce que c'est la transmission. La transmission, elle passe par ça. Moi, j'y ai eu droit, c'est pas possible que les autres enfants n'y aient pas le droit. Je ne peux pas l'accepter.
Alors, vous pouvez, en fait... Vous pouvez, grâce à la langue des signes, là, à ce moment-là, vous situer, faire la correspondance entre les actes et les personnes qui les désignent, entre les personnes et leurs actes.
Oui, comme je vous disais, avant je parlais de moi, la troisième personne, elle. Je disais elle, mais en fait là j'étais devenue je. Et puis, comment dire ? À force de dire « je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas ». Non, là, c'était « je suis sourde », avec un S majuscule, vraiment. Ça a été un moment, pendant que j'étais en voyage au Gallaudet College, à Washington, D.C. C'est la toute première université pour élèves sourds. Hein. Donc, IVT, avec Bernard Mottez, qui est un sociologue, qui travaille au CNRS, qui a fait beaucoup de recherches autour de la surdité, un homme formidable. Et puis un homme qui s'appelle Harry Markovitch. Tous les deux ont proposé à un groupe français d'aller aux États-Unis. Parce qu'on était très intrigués, on se demandait comment ça pouvait se passer, comme en France il n'y avait rien, rien, rien pour les sourds, rien, aucune structure, rien, pas d'université, rien, 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 pas d'école bilingue. Donc, nous sommes allés aux États-Unis. Et c'est là où, là, moi, j'ai vu. Je ne savais plus qui était sourd, qui était entendant. Ce que je voyais, c'était de l'humain. Du l'humain avec une langue commune. Alors, je me disais, ah, tiens, lui, il est sourd. Non, il était entendant. L'autre, je me disais, bah, lui, il est entendant. Non, il était sourd. Et c'est là où j'ai compris qu'une langue... Une langue, la langue des signes, c'est une langue, elle est partagée. C'est pour partager le savoir, les connaissances, l'émotion, la discussion, que ça soit politique ou autre. Ça peut être, voilà, c'est l'échange, la possibilité d'échanger avec les autres. Et ça, je l'ai compris, ça a été le déclic. Vraiment, là, je me suis rendu compte que j'étais en lien avec les autres, que oui, plus tard, je deviendrai grande. Et il y a plein de choses qui se sont passées dans ma tête. D'un seul coup, j'ai eu des réponses à toutes mes questions.
Pourquoi vous dites, Emmanuel Laborie, devenir grande ? Parce que vous arriviez pas à vous imaginer, avant cette communication, que vous alliez grandir ?
Bah, ce que je vous disais, petite, mes repères, c'était les appareils auditifs. C'est idiot, mais voilà, c'était ça, comme ça, c'était mes repères. Un adulte sourd avec appareil auditif, j'en avais jamais vu. Moi, j'ai vu des enfants. À l'école, on était tous appareillés, avec nos appareils qui soient reliés à un boîtier ou pas, mais enfin bon, c'était la surdité, l'oreille qui ne fonctionne pas. Mais des adultes, j'avais aucun modèle, rien du tout, on n'en avait jamais montré un. Donc c'est lorsque je suis arrivée à IVT que j'ai réalisé. Moi je croyais que je... Bon, après bien sûr c'est différent chez chacun, mais moi je pensais que je ne grandirais jamais, ou alors que j'allais mourir. Enfin bon, voilà, c'était du fantasme, je ne savais pas. Imaginez une fille qui n'a jamais vu une autre fille, qui vit toujours entourée d'hommes, que de garçons, qui n'a jamais vu une femme. Comment elle va se croire seule au monde. Elle va se croire seule au monde. Et elle va grandir comme ça, pensant qu'elle est seule. Voilà, c'est du même acabit. Voilà, c'était dans cet état-là que j'étais.
Vous mettez combien de temps à apprendre la langue des signes, Emmanuel Laborie ? 3 mois ? 6 mois, 1 an ? Et vos parents, comment ?
Alors, mes parents, ils ont mis plus de temps. Hein. Ça n'a pas été facile pour eux, parce qu'ils étaient déjà adultes, hein, ils n'étaient pas enfants, ils ne l'avaient pas appris dès leur plus jeune âge. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'ils découvraient. Vous savez, c'est comme une autre langue, hein. Il faut s'accrocher. Moi, j'étais plus rapide dans l'apprentissage, en effet. Combien de temps m'a-t-il fallu? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été assez rapide. Moi, je me rappelle que j'ai eu des cours. Hein. Des cours. Je participais à un atelier avec des adultes parce qu'il n'y avait pas de cours de langue des signes pour les petits. Hein. Donc, ça n'existait pas. Donc, j'étais avec un groupe d'adultes. Et donc, mais moi, je les ai tous dépassés, je les corrigeais. Et le formateur, il me disait, chut, Emmanuel, ne dis rien, non, ne dis rien, c'est bien, c'est très bien, toi, attends, laisse les autres un peu aussi travailler et tout. Et j'ai progressé très, très rapidement, effectivement.
Vous et même encore. Relâche.
Ah oui, je suis une éponge, j'absorbe tout. Et même encore maintenant. Je n'ai pas fini d'apprendre. J'apprends encore, je découvre encore des choses parce que c'est une langue vivante. C'est une langue avec les néologismes, etc. Vous savez, lorsque je travaille sur un texte qu'il faut l'adapter, un texte littéraire et qu'il faut le travailler pour le transposer en langue des signes, c'est une sacrée réflexion et c'est toujours là où on va retrouver des nouveautés, des astuces, des... Voilà. Même encore actuellement, j'apprends. Vous savez, quand on arrête d'apprendre, on s'ennuie. Hein.
Merci Emmanuel Laborie. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Johanna Bedeau avec Emmanuel Laborie. À voix nue, interprète Corinne Gache, réalisation Angélique Thibault, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.